Bonjour, voici un petit montage audio afin de compléter l'article qui a été fait sur le blog Jeu Access et puis donc tout, et les nombreuses pages qui se trouvent sur le site Enfants Aveugles. Il s'agit d'un petit montage pour présenter ce qu'est le jeu de rôle. Bon, alors je vous renvoie déjà aux écrits, hein, donc l'article de Jeu Access et les pages d'Enfants Aveugles. Apparemment, pour le jeu de rôle, on a beau faire des tonnes d'explications écrites, tant qu'on n'y a pas vraiment joué une fois, une séance d'une demi-heure, une heure, et ben on ne comprend pas. Donc là, j'espère qu'avec ce montage audio, vous comprendrez un peu mieux. Donc déjà, je voulais dire que qu'est-ce que le jeu de rôle? Alors déjà, c'est comme une expression de la langue française qui est utilisée pour plein d'activités très différentes. Donc il y a loin des jeux, il y a tout ce qui est les managers et les technico-commerciaux qui s'entraînent à leur profession en faisant du jeu de rôle. Il y a aussi les psychologues ou psychiatres qui font du jeu de rôle parfois dans leur thérapie. Je sais pas à quoi tout ça correspond, mais c'est en tout cas ça correspond pas à nous ce qu'on fait. Il y a du côté des jeux maintenant, il y a des jeux de rôle grandeur nature où les gens s'habillent, se costument, se maquillent avec des épées en mousse, des choses comme ça pendant une journée, un week-end dans un coin de forêt et puis ils font tout un jeu là-dessus. Il y a aussi donc tous les jeux vidéo, la catégorie de jeux vidéo JDR, RPG. Roleplay Games, c'est l'anglais de JDR, de jeu de rôle. Aussi tous les jeux en réseau, sur notamment par ordinateur, les MMORPG tels que Guild Wars ou alors World of Warcraft. Bon, évidemment, comme là, il s'agit de s'adresser à la communauté des personnes déficientes visuelles, vous connaissez sans doute aussi les MUD, qui sont un peu les ancêtres des MMORPG, donc qui fonctionnent entièrement avec une interface texte, vraiment au MMORPG où l'interface est graphique. Enfin, il y a le jeu de rôle, la catégorie de jeu de société, ce dont moi je parle. Donc on est tous assis autour d'une même table. Il y a un meneur de jeu, les autres sont des joueurs qui ont un personnage. On lance généralement des dés aussi. On prend des notes avec crayon de papier sur feuille. On a aussi une feuille de personnage qui dit donc les points forts et les points faibles de son personnage. Et donc le meneur de jeu sert de compteur arbitre et donc il va compter un peu ce qui se passe et les joueurs vont interagir avec ça, et les joueurs avec leur personnage doivent faire aussi équipe, enfin le plus souvent en tout cas. Donc on oublie tout le reste, nous on va parler uniquement du jeu de rôle, la catégorie de jeu de société. Il y a donc une fédération française de jeux de rôle, il y a une industrie comme par exemple les éditions Black Book Edition, des magazines spécialisés comme Casus Belli. Donc pour tout ce qui est les différentes nuances du jeu de rôle, les différentes possibilités pratiques, les différentes façons aussi de rendre le jeu de rôle accessible, bah, je vous renvoie aux pages d'enfants aveugles. Oui, alors le jeu de rôle est quand même plutôt joué par des adolescents et des adultes, mais bon, les opportunités ont fait que j'ai pu poster les pages sur le site Enfants Aveugles, un site 100% accessible au public déficient visuel. Bon, évidemment, moyennant quelques adaptations, on peut faire jouer des enfants. Il s'agit surtout de réduire la durée des séances et de faire des histoires, des scénarios simples et courts, avec des règles assez simples. Bon, le jeu de rôle catégorie de jeu de société peut aussi parfois se jouer par forum, internet, par échange de mails, par chat texte ou aussi par chat vocal. Et donc là, en fait, j'anime régulièrement, cette année 2013, des séances de jeu de rôle par chat vocal. Donc on a besoin d'un chat vocal pour se parler comme si on était autour de la vraie table. Donc là, nous, on utilise Skype et les conférences audio de Skype. Et on a aussi besoin d'un système de dés en ligne. Et donc Quentin, qui a développé donc le salon dans lequel on peut ouvrir des tables à différents jeux, nous a permis aussi d'utiliser son salon avec un petit robot qui permet de lancer les dés au vu et au su de tous. Ensuite, il serait quand même intéressant d'avoir un système de règles qui est facilement accessible par les différents participants. Comme nous, là je parle notamment des participants déficients visuels, donc je travaille à la transposition des règles du jeu de rôle Chroniques Oubliées en fichier informatique très accessible aux personnes déficientes visuelles, avec des liens hypertextes à l'intérieur, tout un système de hiérarchisation des titres afin qu'on puisse retrouver facilement les règles que l'on cherche à l'intérieur. Donc le jeu de rôle, ça peut être des systèmes de règles très simples à très 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 compliqués. Moi je préfère les systèmes de règles assez simples, et puis pour faire des séances découvertes c'est aussi très conseillé. Donc les Chroniques Oubliées, donc c'est un système de règles assez simple. Les univers de jeu, ça peut être futuriste, contemporain, historique, médiéval fantastique, horreur. Donc nous on va jouer en médiéval fantastique, donc du coup on va surtout jouer à la déclinaison fantastique de Chroniques Oubliées. Ça donne Chroniques Oubliées Fantasy, donc avec tout un bestiaire de monstres. Les scénarios peuvent être des scénarios enquête, des scénarios ambiance, des scénarios bagarre, Un peu comme il y a des films d'action, des films policiers ou des romans policiers, des romans d'action. Donc là, je fais jouer une campagne qui est fournie dans le Casus Belli 1, 2 et 3 de 2011-2012. C'est la campagne Les Seigneurs de l'Hiver. C'est une campagne qui alterne les passages, on va dire, d'action et les passages d'enquête, et où il y a régulièrement de très belles images, de très beaux décors des paysans. Vous aurez donc quelques extraits dans le montage audio. Alors le jeu de rôle, c'est surtout une rencontre humaine. C'est ça qui en fait tout l'intérêt par rapport aux jeux vidéo et aux jeux en réseau. C'est le fait de se parler, de s'amuser ensemble, plus réellement et plus naturellement qu'avec l'usage des technologies modernes. Et puis comme ça, on passe un agréable moment ensemble, dépaysant et convivial. Et donc, au-delà des règles et des moyens techniques, il faut surtout s'entendre entre les participants, faire équipe, avoir les mêmes plaisanteries si on veut bien, surtout avoir les mêmes passions ou les mêmes envies. C'est-à-dire qu'il faut que, comme les joueurs font équipe, il faut qu'ils soient tous à peu près au diapason, à peu près, hein. Et donc, notamment, s'il y a 3 joueurs sur 4 qui veulent absolument sauver le monde, si le quatrième veut assassiner tout le monde, les gentils et tout, bon bah là ça va poser problème parce que l'équipe va pas rester soudée longtemps, il va y avoir des déceptions, etc. Et le jeu de rôle aussi, c'est quand même une rencontre humaine, ça prend du temps, hein, contrairement à un jeu vidéo où on appuie 3-4 fois sur un bouton, on a tué 4-5 gobelins, on appuie sur la manette, on voyage, toc toc toc, on voit des tas de choses. Bon là, tout se fait avec la rencontre humaine, les échanges, on se parle, on se répond, on se met d'accord, donc tout ça prend du temps. Donc les séances de jeu, si on se débrouille bien, on peut faire ça, des séances d'une heure, mais bon, c'est quand même souvent plus, mais on peut faire des séances d'une heure. Par exemple, tous les clubs, dans les collèges ou dans les lycées qui se réunissent du temps de midi, souvent, bah du coup, c'est des séances d'une heure. Mais en même temps, comme ils se voient tous les midis, quasiment, bon bah ça compense. C'est beaucoup plus facilement des séances de 2-3 heures. Et puis bah quand on est vraiment passionné, qu'on a décidé que son loisir dans la vie, en dehors des autres contraintes, bah, son loisir ce serait le jeu de rôle, bah souvent les passionnés considèrent qu'une séance de jeu, c'est au minimum 5 heures. Bon. Là, moi, personnellement, je m'éclate avec des séances en semaine le soir de 21h à minuit sur Skype. Et comme on fait une séance tous les 15 jours, bah 3 heures tous les 15 jours, on joue, hein, on s'amuse et on avance dans l'histoire. Il n'y a pas de souci. Bon, pour tout le reste, je vous renvoie de toute façon aux écrits. Hein, donc l'article sur Jeux Access, les pages sur le site Enfants Aveugles. Mais maintenant, place à la démonstration. Donc je vais faire le résumé de la dernière fois. Donc la dernière fois, alors en fait c'était une histoire pour ceux qui ça fait longtemps que qui sont pas là. Alors c'était vous connaissez les uns les autres, vous êtes un peu mercenaires sur les bords, et donc vous aviez trouvé du taf d'accompagner un marchand, d'accompagner un marchand, un certain Klaus qui allait vendre du blé. Le comté d'Archheim. Et en fait, donc c'est le début du printemps, mais quand vous êtes entré dans le comté d'Archheim, il faisait froid. Et en fait, il faisait de plus en plus froid et avec de la neige. La tradition est davantage que ce soit les joueurs qui fassent eux-mêmes le résumé de la séance précédente, comme ça les force à faire un effort de mémoire, aussi un effort de s'impliquer dans l'histoire, et puis aussi un effort de prise de notes et de relecture des prises de notes. Bon, moi, je fais les résumés les fois précédentes en tant que meneur de jeu parce que ça me permet d'aller plus vite, et puis comme les joueurs peuvent ne pas être présents systématiquement d'une séance à une autre, puisque bon bah j'oublie voilà, je demande pas aux joueurs qui veulent jouer de signer un pacte avec leur sang en disant qu'ils seront là systématiquement, quoi. Donc, ils ont le droit d'avoir d'autres priorités, d'être absents de temps en temps, et ça permet comme ça de mettre tout le monde à pied d'égalité en leur redisant tous un peu le résumé de la fois d'avant. Même ceux qui n'étaient pas là, ils peuvent en profiter. Ça va plus vite, vu que les séances ne feront que 3 heures, on va plus vite normalement. Excusez-moi, on va faire la traditionnelle présentation des persos.
Ok.
Vous pouvez donc décrire vos personnages de façon détaillée. Ou être très schématique, très court, c'est vous qui voyez. Donc, on va commencer par Quentin. Non, Michael, tiens, excuse-moi, Michael, tu commences.
Bon, moi, enfin, mon personnage, c'est une ravissante jeune elfe.
Ouais.
Bon, d'après ses vêtements, c'est une magicienne, voilà. Donc, se trimballe avec un bâton, tout un attirail, tout ça. Puis, elle a un petit chat. En fait, un petit chat avec de longs poils dans ses bras, quoi.
Ensuite, Quentin, non, excuse-moi, Samuel, présente-toi, s'il te plaît.
Moi, c'est un jeune elfe qui est le demi-frère du personnage de Michael.
Frère jumeau.
Très
Frère jumeau.
important.
Frère jumeau.
Ah oui, exactement. Frère jumeau, pardon. C'est un ensorceleur et ça se voit aussi à ses vêtements et il n'a pas d'animaux. Il n'a pas de familier. Voilà.
Alors Quentin, à toi.
Ouais, moi ça n'a pas changé, c'est-à-dire que j'ai toujours le druide qui s'est maintenant spécialisé dans un peu avec les animaux, donc et puis qui a maintenant un aigle depuis niveau 4. Puis
et tu es un humain?
Sinon non, gnome parce que je trouve ça sympa. Ça change un peu. Puis les gnomes sont un peu curieux, un peu curieux. Donc ils sont petits, ils ont des gros nez, ils sont un peu curieux, c'est sympa comme truc.
D'accord. Alors Emmanuel, à
Alors,
toi, tu
donc moi je
nous
suis un voleur humain. Après, donc, effectivement, moi je suis assez. Il y a pas mal de réflexes, on va dire. Et puis j'ai pas mal de techniques de discrétion. J'ai une technique de discrétion. Donc je peux passer un peu derrière l'ennemi, voir un peu ce qui se passe et faire un peu un coup en traître, si on peut dire, ça comme ça.
Donc tu te balades pas dans les rues en disant que t'es un
Non,
voleur, t'es
non, non,
plutôt
non, non,
un
non, non, bien sûr que certainement pas.
t'es un combattant mercenaire. Tu te
Voilà.
balades avec quelle arme à ta
Pour le corps, j'ai une rapière et puis sinon, j'ai un arc.
D'accord.
Pour le tir à distance.
Et donc tu as quelle armure? Une armure de plaque
Oui, une armure de plaque, absolument.
Ouf, t'es sûr? Je te disais ça comme ça, mais
Ah, d'accord. Sinon, non, c'est une armure de cuir, pardon.
voilà, une armure de
Voilà.
cuir qui te permet de rester très agile.
Voilà.
Et
Plus de défensif.
Voilà. Ok, ça marche. Bon, ça nous permet un peu de nous remettre un peu dans le bain de qui est qui.
Oui.
Et donc vous avez un demi-orc qui vous accompagne, qui est une grosse brute épaisse, qui se bat avec une hache à deux mains, de mémoire, qui est donc le personnage de Smaël, qui est absent ce soir. Et donc son personnage va être en PNJ, personnage non joueur.
Sûr.
Je vais mettre en PNJ suiveur, hein, donc il aura pas
Ouais.
d'initiative. Enfin, il fera pas d'action par lui-même, mais vous
Ouais.
suivra en permanence. Bon, donc deux semaines se sont écoulées. Donc c'est pas systématique à chaque séance qu'on représente son personnage, mais ça permet quand même en le faisant de temps en temps, de refaire le point. Puis parfois, du coup, on se remémore certains petits points de détail, parce qu'au-delà de, par exemple, un personnage, je sais pas moi, humain, guerrier, niveau 4, champion, enfin pour son niveau 4 de karaté, au-delà de ça, il peut y avoir particularités physiques ou de la personnalité ou de l'histoire de la personne qui peuvent être intéressants de se remémorer de temps en temps. Bon, surtout c'est intéressant lorsque de représenter chacun des personnages quand il y a un nouveau joueur qui arrive. C'est comme ça, lui il présente son personnage à lui et puis les autres présentent leur personnage quoi. Alors par contre, à la grande question cruciale que par rapport à la magie dans Chroniques oubliées, parce que il n'y a pas dans les règles d'indiquer une limite de nombre de sorts actifs en même temps, ni de nécessité de faire des tests de concentration pour réussir à gérer plusieurs sorts en même temps ou à maintenir un sort actif alors qu'on en lance un autre, c'est pas précisé. Alors moi, ça me posait des questions métaphysiques. Alors j'ai pas encore obtenu la réponse officielle, mais j'ai déjà obtenu plusieurs réponses et s'il semblerait que vous pouvez quand vous lancez un mur de force, il est actif pour un certain nombre de rounds, et puis bah voilà, le round suivant, vous pouvez lancer autre chose, et donc du coup, genre, le mur de force, ça doit être genre 5 plus intelligence, donc ça doit faire genre du 6 ou 8, pendant 8 rounds, j'imagine, par exemple, je donne ça au pif, hein. Ça veut dire que les 7 rounds suivants, le Michael peut lancer 7 sorts différents, quoi. Y a pas de souci, quoi.
Et deux fois le même, c'était quoi la réponse pour deux fois le même?
Alors, ça dépend si c'est de l'instantané, tu peux, mais par exemple, tu peux pas cumuler les effets. Par exemple, tu peux pas te lancer 3 fois armure de mage, et donc, obtenir +4, +4, et encore +4 de protection.
Ouais, c'est logique, mais 3 murs dans des endroits différents, par exemple, tu l'accepterais.
Voilà, voilà, donc j'ai mûri ma réflexion, et maintenant, je dirais oui, d'accord.
Et on peut faire de la magie à l'intérieur, et on peut faire de l'attaque à distance de l'intérieur.
Non,
ça dépend.
Le mur, non, parce qu'il est destructible, en fait, le mur.
Tu peux pas taper, tu peux pas tirer une flèche à travers, puisque...
D'accord.
Par contre, toi, t'avais télé... Ouais, enfin, ça va être chaud. Hein. Mais sinon, toi, t'avais télékinésie, donc tu peux faire télékinésie à travers le mur, et puis prendre un objet qui est à l'extérieur du mur, et puis le déplacer pour frapper une personne qui est à l'extérieur du mur, quoi.
Oui.
Tu vois bien.
J'ai une question qui peut servir... Est-ce que, peut-être pas là, mais voilà. Est-ce que télékinésie, ça peut servir aussi d'attaque pour essayer d'enlever quelque chose des mains de quelqu'un ou pas?
Oui, oui, oui.
D'accord. C'était juste pour savoir.
Après, évidemment, je vais encore manquer kiné avant.
Genre, si c'est pour désarmer, ça risque d'être dur quand même.
Ouais, bah ouais, donc, ça doit être un combat.
Y a pas de règles vraiment, mais donc du coup, je vais devoir gérer ça un peu à la louche, mais sur le principe, y a pas de souci. Tu pourras tenter, on verra ça le moment venu.
Ouais.
Donc évidemment, ça nous arrive en plein jeu d'avoir quelques discussions sur les points de règle, mais ça arrive pas trop souvent, et puis bon, ça fait partie aussi du jeu, et donc il y a des règles effectivement à lire pour le meilleur de jeu et aussi pour le joueur, et à connaître, mais en même temps, je vois dans certains jeux de rôle qui sont un peu complets et complexes, il y a beaucoup de pages à lire, et parfois ça fait même peur aux joueurs débutants, parce qu'ils voient, oh là là, il y a 300 pages de règles, écrits petits, je peux pas lire tout ça, je pourrais jamais mémoriser tout ça, tu te rends compte, tous les cas de figure, si on est abrité, si on est camouflé, s'il y a du vent, si on est très loin, si on est déguisé, si on est invisible, enfin bref, il y a plein de cas de figure, alors évidemment, faut pas arrêter de paniquer, c'est qu'un jeu quand même, donc faut lire... les grandes lignes, et puis au fur et à mesure, ensuite, en jouant, en étant confronté aux situations, sur le coup, on peut inventer la règle à la louche, ou la regarder très rapidement, et puis surtout, entre deux séances, re-regarder, et puis elle se dira, tiens, on aurait pu faire ça, ça aurait été mieux de faire comme la règle l'indique, et de séance en séance, comme ça, tout le monde, meneur de jeu et joueur, s'améliore dans la maîtrise du système de règles. Bon, il faut quand même que les joueurs y mettent aussi un peu du sien, hein, parce que certains joueurs, des fois, ils veulent vraiment pas lire les règles. Donc, par exemple, dans le montage court, il y a l'histoire donc du mur de force mis en cylindre pour entourer et protéger donc le groupe d'aventuriers. Ben, en relisant les règles, on s'est aperçu qu'on l'avait un peu géré à la louche, quoi. C'est pas exactement ça qui était prévu dans le système de... Dans le système de règles, voilà, c'est pas grave, hein, on s'est mis d'accord, on a joué, et puis effectivement, plus tard, en relisant, on se dit, il y a le mur de force tout droit, et puis il y a aussi la possibilité d'avoir une demi-sphère sous laquelle se protéger. Vous arrivez enfin donc à Goruskal, qui est une vieille cité naine, mais une cité en surface, hein, souvent. Souvent les cités naines, on dit c'est souterrain, mais là sinon c'est en surface. Donc ils ont bâti une cité en surface, donc avec des roches qu'ils ont taillées, et puis ils ont bâti des maisons, etc., des remparts. Donc la vieille cité naine est entourée de remparts qu'ils ont donc que les nains ont bâti. Et à l'intérieur, c'est plus une cité naine, c'est devenu très cosmopolite, mais il y a quand même encore beaucoup de nains. Et puis ça reste sous essentiellement des constructions naines d'il y a longtemps, donc tout en pierre, taillé, scellé, sculpté, poli, enfin la totale quoi. Une superbe maison. Enfin petite maison, grosse maison, mais en tout cas très bien faite. Et vous pouvez donc vous approchez des remparts de la ville pour y entrer. C'est fin d'après-midi. Donc vous voyez une sorte de colline, mais une colline très abrupte, très rocheuse, qui monte à pic un peu, qui est donc derrière Goruskal. Et donc vous pouvez la voir là, parce que en fait c'est, grosso modo autour c'est relativement plat, puis il y a juste ce promontoire rocheux qui monte un peu comme genre la tour Eiffel quoi, hein, donc quand même très haut. Donc à la base sûrement que c'est un peu colline quoi, un peu sympa, puis assez rapidement ça devient vraiment de la roche abrupte, et même il y a une falaise. Et d'après ce qu'on vous a dit, l'ermitage d'Arlan se situe au niveau de cet endroit-là. Et vous pouvez
tout en haut.
Et vous pouvez deviner qu'il y a des terrasses au sommet. Alors des terrasses, c'est-à-dire qu'ils ont cassé la roche pour faire une zone plate. Donc c'est ça la terrasse, c'est le fait que c'est plat. Et donc par exemple, ça peut y avoir un jardin sur cet endroit-là. Donc vous devinez dans la silhouette de la roche quelques zones là où ça a été taillé pour faire un peu comme une marche d'escalier, hein, donc une zone plate. Bah, ça là, ça doit être une terrasse de l'ermitage, quelque chose d'artificiel taillé par les nains il y a très longtemps. Mais sinon vous voyez pas trop assis là à cet endroit-là. À un moment qui sort de la roche, il y a juste une petite zone arrondie qui ressemble un peu à l'arrière d'une église. C'est juste en arc de cercle comme ça, un peu comme un cylindre, une moitié de cylindre si on veut bien quoi. Donc c'est la falaise à cet endroit-là, c'est une moitié de cylindre parfait. Puis on devine un peu les roches qui ont été taillées puis scellées ensemble. Et il y a puis sur ce cylindre il y a une grosse fenêtre et puis deux petites fenêtres latérales. Donc là, cet endroit là c'est sûr c'est une construction d'homme ou de nain en l'occurrence. Mais sinon pour le reste vous voyez vous percevez pas plus que ça où est le fameux ermitage d'Arlan, ou à quoi, qu'est-ce que c'est que cet ermitage d'Arlan. Donc très bien, donc vous entrez dans la ville, bon il n'y a pas de souci. Si les gardes vous posent trop de questions, je vous rappelle que le comte vous a fait un papier officiel avec prière de vous le laisser passer, voire même de vous aider dans votre quête, qui est très importante. Donc il n'y a pas de souci plus que ça. Vous trouvez une auberge où on va pouvoir s'occuper de vos chevaux. Vous allez pouvoir décharger vos chevaux et mettre tout ça dans une chambre sous clé, si je puis dire. Donc vous détendre un peu, vous reposer, vous manger quelque chose et poser des questions, effectivement. Donc l'ermitage d'Arlan. Alors ermitage, c'est normalement pour les ermites, des gens très pieux, très spirituels, très mystiques.
Ouais, c'est pour ça que je voulais savoir un peu plus sur celui qui attend là-bas.
Voilà, donc des gens qui les gens qui s'isolent typiquement en haut d'une falaise abrupte, puis qui dressent une tente, puis une cabane pour y vivre et puis prier, puis manger de pas grand-chose. Et donc là où vit un ermite, c'est son ermitage, et puis surtout s'il y a plusieurs ermites. Bon, là en l'occurrence, vous découvrez en vous renseignant que ça fait 8 ou 10 ans que l'ermitage d'Arlan, n'est plus un ermitage, mais est devenu un monastère. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus des ermites qui y habitent, c'est plus des moines. Et surtout, il est beaucoup moins isolé qu'avant. Ils ont une politique, au contraire, d'accueil des gens qui veulent venir. genre en retraite spirituelle ou en pèlerinage pour faire une recherche mystique. Donc il n'y a pas de problème, ils accueillent, moyennant finance hein, forcément, mais ils accueillent, ils ont des chambres, il n'y a pas de souci, c'est prévu pour. Donc voilà. Et donc surtout que les pèlerins qui vont jusqu'à l'ermitage d'Arlan, c'est pas des pèlerins pauvres quoi, c'est souvent des nobles ou de la haute bourgeoisie, donc des gens qui payent bien, on peut supposer le gîte et le couvert quoi. Et généralement ils restent genre une semaine ou alors un mois ou deux, bon, ou trois ou six mois.
Ça dépend de ce qu'ils vont faire aussi.
Voilà, voilà. Donc, et on vous explique que cet ermitage, l'ermitage d'Arlan, devenu un monastère, et en fait, c'est une habitation qui est quasiment essentiellement troglodyte, c'est-à-dire à l'intérieur, creusée à l'intérieur de la falaise. C'est pour ça que de l'extérieur,
pas grand-chose.
Oui, déjà si vous étiez loin, mais en plus, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à voir, c'est essentiellement à l'intérieur. Donc d'ailleurs, là, en vous avançant et en vous regardant bien, vous avez pu deviner dans la roche de la falaise quelques ouvertures qui ont l'air de fenêtres étroites. Mais sinon, puis bon, il y a l'arrière d'église, là, le demi-cylindre, là qui est clairement une habitation. Mais sinon, tout le reste, c'est à l'intérieur de la roche.
Le Yvénir, quel dieu, on peut savoir?
Ah oui, alors bonne remarque, ils sont plutôt polythéistes, mais des dieux bons, hein, forcément, hein, pas des dieux mauvais. Donc dieu de la pluie, déesse de la pluie, dieu du soleil, dieu de la justice.
Ils ont un peu plusieurs, hein, ils sont pas uniques.
Non, ils sont pas uniques. Et puis autre remarque très importante, alors là c'est pas descriptif, hein, mais c'est par rapport à moi, au monde. Donc c'est forcément c'est des moines qui sont là-haut. Donc vous, dans votre tête, vous savez que pour les PJ, les personnages joueurs, il y a un profil qui s'appelle prêtre, avec un certain nombre de pouvoirs, de capacités plutôt, et qui a souvent des capacités magiques. Alors eux, les gens qui habitent là-bas, c'est pas parce que ils sont prêtres ou moines ou frères.
Il y avait même deux trucs, il y avait les moines qui étaient un peu des karatékas,
oui,
version 2.
Oui, c'est ça, oui, non, bon, alors déjà les moines, c'est surtout des moines Shaolin, point barre. Et oui.
Ah ça OK d'accord.
Donc nous
rien à voir.
Donc rien à voir. Donc je sais pas pourquoi ils s'obstinent à mettre que moine, alors ils devraient mettre carrément moine Shaolin, ça serait plus simple.
Ça éviterait la confusion.
Voilà. Donc mais bon bref, ce que je veux dire c'est que donc les gens qui habitent dans l'ermitage d'Arlan là reconverti en monastère, donc c'est des frères frères bidules, ils ont pas forcément des pouvoirs divins comme dans le profil de prêtre. Ils n'ont pas forcément des pouvoirs de guérison, etc. Ils peuvent être devenus prêtres ou frères monastères, moines, je dirais, moines religieux, parce que ils sont doués pour la prière, assidus à la prière, ou doués pour les chants religieux, ou doués pour parler aux foules, doués aussi pour les connaissances, tout ce qui est le fait de connaître les dieux, ça porte un nom et la théologie, c'est ça, tout ce qui est doué en théologie, bon, ou tout simplement voilà, ils sont bien nés, donc du coup ils ont reçu un coup de pouce pour intégrer le culte quoi. Mais ils ont pas forcément reçu une bénédiction divine particulière qui leur confère forcément des pouvoirs magiques de guérison. D'accord? Mm-hmm. C'était une petite parenthèse par rapport au monde, quoi.
Toujours là, Samuel?
Vous dites pas, sous prétexte qu'ils sont tous moines religieux dans un monastère, qu'ils ont tous des pouvoirs de guérison, etc.
Ouais, il y a sûrement les plus hauts qui ont des pouvoirs, mais après les autres.
Voilà, Enfin, vous verrez en l'occurrence si c'est le cas. Mais en tout cas, je voulais vous avertir que c'était pas forcément le cas. Vous avez repéré qu'il y avait une cage rouillée, donc ça, et on vous en avait parlé aussi. On sait qu'il y a longtemps, les nains, donc c'est les nains qui avaient d'abord construit l'édifice, qui est devenu ensuite l'ermitage d'Arlan et qui est maintenant un monastère, qui a, en gardant le même nom. Donc les nains qui avaient construit au tout début cet édifice avaient installé une cage en métal qui était tirée, enfin montée par des chaînes en métal, quoi. Et puis bah là, en fait c'est un ascenseur, quoi. L'ancêtre de l'ascenseur, quoi. Et donc la cage est à l'extérieur, mais bon, personne ne sait comment ça fonctionnait, et puis ça a rouillé, voilà. Donc la cage est en bas de la colline, et bah il y a les chaînes qui pendent entre cette cage et le haut d'une terrasse, vous savez. Je vous avais dit, c'était taillé en plat, des zones plates, donc ça faisait un peu du coup des marches d'escalier, quoi. Tout en haut, il y a une terrasse, donc un plat, et la chaîne, elle penche de là à tout en bas, donc la fameuse cage. Voilà.
Bon, mais tout en bas, au niveau de la ville.
Voilà, c'est ça, quasiment au niveau de la ville. Tout en bas. Donc il y a une ou deux chaînes rouillées.
Papa. Voilà, je suis de retour.
Ok. Donc.
Donc on est en ouf.
Ouais. Donc je disais, vous êtes sur la terrasse d'accueil. Donc c'est une zone toute plate. Donc c'est une terrasse. Donc c'est le vide est sur trois côtés, quoi. Et le quatrième, par contre, c'est une paroi. C'est un mur maçonné avec une belle porte en bois. Double porte et une chaînette reliée à une petite cloche. Le mécanisme est même à l'extérieur, hein, c'est un petit machin de rien du tout. Et donc c'est l'entrée de l'ermitage d'Arlan.
Ok.
Faites-vous.
Bon, qu'est-ce que tu proposes, la version sympa ou la version On sonne ou pas?
Ouais, bah ouais, de toute façon, on est censé être demandé quelque chose, donc il faut aimable.
Je sais pas, je te demandais parce que, je sais pas, tout d'un coup, t'avais peut-être des envies suicidaires.
Non.
Non, on sonne alors.
Ok. Donc, aussitôt, on vous ouvre. Donc, c'est un homme... qui vous ouvre en robe de bure, mais la robe de bure, c'est le vêtement un peu typique des moines religieux. Et ouais. Il vous dit bonjour, je suis le père Auguste. Donc il est, c'est un homme qui a des traits soucieux, qui a des rondeurs d'homme bien gras, donc il y a une quarantaine d'années, une barbe fournie, et vous serre la main très amicalement, et il regarde derrière vous, et puis il regarde à nouveau vers vous et vous dit oui, vous êtes envoyé par Dame Sylvia.
Question avant de répondre. Ouais. Est-ce qu'on sait qui c'est?
Non, vous savez pas.
C'est le père Auguste.
Donc le père Auguste, oui, qui vous parle, mais il vous a surtout parlé de Dame Sylvia. Est-ce que vous êtes envoyé par Dame Sylvia? La réponse, vous savez pas qui c'est.
Donc non, on sait pas.
Ok.
Même en fouillant dans mes mémoires et tout, on sait pas.
Ah bon, vous n'êtes pas... Donc vous ne faites pas partie de la suite de Dame Sylvia? Elle n'est pas avec vous?
Non.
Ah.
Et vous...
Ah bon. Et là, vous voyez, il est très soucieux. Ah bon. Bonjour. Donc, je suis le supérieur du monastère. Je suis le père Auguste. Vous venez pourquoi?
Ben là, il faut qu'on aborde le sujet. Donc, on peut déjà y montrer là, le truc officiel.
Alors, tu étends le document officiel, il regarde ça en fronçant les sourcils, oh là là là, il ouvre pas, hein. Il voit le cachet du comte et tout, oh là là. Oui, bah entrez. Je vais vous verrez ça avec le père Mécla. Donc il vous fait entrer. Donc à l'intérieur, c'est, on va dire, c'est le hall d'accueil qui est déjà immense, hein. Une grande salle. Et vous voyez qu'elle est ouverte sur une autre grande salle sur le côté qui ressemble à une salle de prière, une salle de cérémonie de culte avec des bancs et au bout un autel. Et puis le fameux arc de cercle que je vous disais là, qu'on voyait depuis l'extérieur. Et donc c'est autour de vous, c'est l'effervescence. Vous repérez plusieurs hommes. Il y a plusieurs hommes en robe de bure, des hommes de 30-40 ans, d'autres un ou deux d'une soixantaine. Il y en a un qui est en train de nettoyer là où il y a toutes les bougies, les cierges. C'est donc, du coup, il y a plein de coulures de cire, quoi, de bougies. Donc il est en train de nettoyer ça. Il y en a un autre qui utilise ce qu'on appelle un tête de loup, je crois, ou un hérisson, je sais plus le terme exact. Enfin,
je sais pas ce que c'est.
C'est un grand balai avec au bout, sauf que ça, c'est un balai qui est en tout rond. Et c'est pour attraper les toiles d'araignée. Donc il est en train de faire les toiles d'araignée dans la pièce pour essayer de les enlever à bout de bras. Et il y a des pages qui sont en train de d'astiquer les meubles avec un petit peu, en rajoutant un petit coup de cire sur les meubles. Et donc le père Auguste, donc je disais, le supérieur. Donc le barbu, l'air soucieux avec sa quarantaine d'années, vous appelle à la volée « Père Mécla, Père Mécla !» Donc il y a un autre homme qui arrive. Il a l'air sinistre, il a l'œil mauvais. Mais bon, il sourit quand même. Alors il arrive « Oui, ce sont nos hôtes. » Alors tout de suite, le père Auguste dit non, ce sont ils viennent pour autre chose, je ne sais pas, bah tenez. Et le père Auguste balance le document officiel au père Mécla. Et occupez-vous-en. Alors bon, il est un peu mécontent, le père Mécla. Bon, alors il vous regarde et voilà, qu'est-ce que c'est que ces paysans là. Enfin bon, il le dit pas, mais vous sentez que c'est ce qu'il a pensé, quoi. Donc il y a un abruti de guerrier, deux elfes mages, et puis un gnome druide. C'est pas le gratin de la société, ça. Hein. Enfin, c'est mieux que paysan, mais c'est quand même pas le. C'est pas de la noblesse, ça se voit. Hein. Il vous regarde comme ça, il vous toise rapidement, bon. Il vous dit oui, c'est pourquoi.
Bon, bah faut qu'on lui explique la situation. Faut qu'on lui explique depuis le début avec l'hiver et tout. Je pense qu'il faut y expliquer depuis le début.
On doit le faire en roleplay ou on peut dire.
Non, je pense pas.
Non, bah on va dire que vous commencez à le faire, vous commencez à raconter. Et
lui expliquer, ouais,
oh là là.
Il ignore sûrement pas, et puis tout.
Oui, oh là là, là là, là là, là là. Bon, du coup, il ouvre un peu le document. Ah oui, on a remarqué effectivement, le printemps est frais, le père Trémise nous avait apporté quelques nouvelles sur ce retour de l'hiver, comme il est malade depuis plusieurs jours, nous n'avons plus trop eu de nouvelles par rapport à ça. Mais bon, bah écoutez, vous trouverez donc la bibliothèque là-bas, à l'étage inférieur. Allez-y. Donc en gros, en décodé et vous...
Lui, eux, ils savent rien du tout, donc...
Oui, puis en gros, ils sont occupés par autre chose. Il y a Dame Sylvia qui va arriver, donc en gros, voilà quoi.
C'est qui, en fait, si on peut lui poser la question.
Il vous dit, vous ne connaissez pas Dame Sylvia?
Non.
C'est la comtesse. C'est une comtesse. C'est une cousine du roi.
Ah ok, d'accord.
Elle vient séjourner quelques jours chez nous. Nous avons reçu l'information il y a peu. D'après les jours indiqués, c'est aujourd'hui qu'elle va arriver. C'est arrivé dans 10 minutes ou dans 2 heures. Nous devons tout mettre en ordre pour sa venue. Comprenez-nous bien.
Ouais, d'accord. Donc vous avez pas le temps d'accorder pour.
Oui, bah écoutez, c'est par là-bas. Donc vous indique une porte qui donc s'enfonce dans le reste du bâtiment. Puis vous a dit c'est au niveau inférieur. Au niveau de la bibliothèque.
Ouais, bon, bah alors, s'il a l'air comme ça occupé, qu'il veut pas du tout nous aider, bah, on va y aller nous-mêmes.
Alors, donc...
Puisqu'ils ont l'air soit de pas savoir, ou soit qu'ils ont vraiment pas envie, tant pis.
Donc, et puis, alors que vous tournez le dos pour aller vers la direction qu'il indique, vous remarquez qu'il se remet la main dans les cheveux pour vérifier que sa coiffure est toujours en ordre, et puis il regarde sa toilette... Donc sa robe de bure qui est pas si, qui est pas si pauvre que ça, parce que normalement les moines religieux et autres pères religieux font plus ou moins vœu de pauvreté, vous savez, un peu un truc comme ça, quoi. Et là, bon, il cherche à pas être trop, à avoir l'air pas trop pauvre non plus, quoi, pas trop médiocre. Faut que ce soit un peu beau quand même, quoi. Bon, bref, donc vous avancez, et dans tous les gens là, qui s'active autour de vous, il arrive un garçon d'une douzaine d'années vers vous, il vous dit bonjour. Alors lui, il est pas du tout en robe de bure, hein, surtout à 12 ans. Vu sa tenue vestimentaire, ça serait plutôt un domestique. Voilà.
Ouais, d'accord.
Qu'est-ce que vous faites? Il vous dit bonjour.
Ouais, bah, on lui dit salut, qu'est-ce qu'il veut
voulez que je vous conduise jusqu'à la bibliothèque? J'ai entendu que vous vouliez aller là-bas.
Ben oui.
Si tu connais le chemin, oui.
Ben oui, ça nous facilitera les choses.
Donc, très bien, mais vous dites suivez-moi. Donc il commence à descendre avec vous l'escalier en colimaçon, et puis à un moment il s'arrête et dit, ah, excusez-moi, je me rappelle que Dame Elena voulait que je lui rapporte quelque chose. Excusez-moi, je dois y aller. Et donc du coup il remonte et il vous laisse donc continuer à descendre l'escalier en colimaçon. Et il vous a dit dans la conversation, il vous a dit qu'il s'appelait Cario. Voilà. Bon, donc vous êtes maintenant arrivé donc au l'étage inférieur et vous tombez tout de suite sur un homme qui est en train de terminer sa toilette justement. C'est le chantre d'acier, le frère d'acier. Qui est ce poste de chantre et qui est donc en charge de la bibliothèque. Et donc il est en train de terminer sa toilette et il vous dit dès que vous êtes arrivé, Dame Sylvia est arrivée?
Non, nous sommes envoyés pour autre chose.
Ah bon, qu'y a-t-il?
Puis bon, on lui montre rapidement le petit document s'il faut.
Ah, vous aurez besoin de quelque chose dans la bibliothèque?
Oui, en fait, faut qu'on lui explique le... Elle a un nom, cette carte, en fait. Faut peut-être lui dire qu'on cherche ça, quoi.
D'accord. On va dire qu'elle a un nom, la carte, mais là, on l'a plus, donc c'est pas grave. Mais bon, en roleplay, ouais, tu lui as donné le nom adéquat.
Ouais, faut dire qu'on cherche ça, quoi.
Ah, oui, bien sûr. Bien sûr, donc... Il y a une zone avec une grande, enfin une porte. Justement, il était en train de passer le balai devant cette porte. Et puis donc il y a la bibliothèque, donc avec un coin, un scriptorium, donc pour qui est un atelier de copiste, pour où on reproduit donc des cartes, des parchemins, des livres. Donc on les reproduit, etc. Sauf qu'à l'épaisseur de poussière, vous pensez que ça fait au moins 8 ans que... Enfin, depuis que l'ermitage est devenu un monastère, que plus personne n'est venu s'embêter
à copier
quoi que ce soit ou à reproduire quoi que ce soit. Et puis sinon, donc, effectivement, il y a une zone bibliothèque. Donc on est vraiment dans l'antre de la falaise. Donc vous avez... 6 ou 7 rayonnages qui vont très loin dans les profondeurs, quoi. Donc la température est constante, le taux d'humidité est constant et puis pas très élevé non plus. Donc c'est bien, enfin ça reste stocké et puis ça vieillit pas trop mal, quoi. Et donc, il commence à vous expliquer. Alors oui, les cartes, elles sont par là. Donc, il vous indique une zone. Mais en fait, il y en a aussi par là. Et puis, il faut regarder l'indice. Alors, parce qu'en fait, sur les travées, là où, sur les étagères, sur les travées, il y a des indications avec des codes. Alors le code, ça peut être intéressant pour les cartes, mais aussi le code si. Enfin, vous avez l'impression qu'il maîtrise pas trop son sujet, quoi. En fait, il.
Ouais, en fait, il demande de chercher un peu partout, quoi.
Il est un peu au pif. Enfin, ça ressemble un peu au pifomètre, son truc. Et puis, grosso modo, enfin, il vous dit de chercher par-ci ou par-là, mais bon, lui-même, là.
Ouais, il sait pas trop, peut-être lui poser la question autrement, est-ce qu'il sait quelque chose, parce qu'il a quand même dû pas mal lire.
Ah non, là, cette carte ne me dit rien, bon, vu.
Et puis sur le seigneur de l'hiver en général, ou l'été, est-ce qu'il sait quelque chose?
Non, il sait pas.
Il a dû lire quand même, donc, je sais pas.
Non, il sait rien. Ouais, puis il a même surpris par la question, non, il a... Ça a pas l'air d'être un théologue.
Est-ce qu'il a jamais entendu parler de ces légendes ou quoi que ce
non,
soit?
Non, non, non.
Qu'il a jamais lu ou...
Non, il a pas l'air d'être un gros lecteur, ni d'être un champion en théologie. Donc non, là, ça lui dit rien, quoi. Et puis, bon. Et donc, c'est le beau chantre d'acier entend quelque chose et il y a un page qui descend. Un jeune page et qui annonce Dame Sylvia est arrivée. Alors aussitôt le chantre d'acier s'éclipse en vous disant mais écoutez, je voulais chercher, excusez-moi, et il vous dit excusez-moi en faisant même pas attention à vous, il se barre limite en courant pour être pour accueillir
complètement rien à foutre, quoi.
Voilà.
Bon, chercher une aiguille dans une botte de foin, quoi.
Très bien. Alors, soudain, descend par l'escalier en colimaçon, donc tout un groupe de personnes. Donc, vous reconnaissez tout de suite le père Auguste, le supérieur, suivi d'une dame très belle. Enfin, très belle. Non, finalement, sa beauté est assez moyenne. Surtout l'elfe, là, t'as l'œil. L'œil expert sur ce genre de choses. Donc elle a le trait du visage d'une beauté, mais très standard. Par contre, très apprêtée, avec, tu vois, genre les cheveux bouclés, avec même des boucles de cheveux qui sont pas d'elle. Tu remarques tout de suite que c'est des rajouts, des bijoux très fins, une belle robe avec des broderies, etc. Donc là,
elle est banane, mais elle a de l'argent.
Voilà. Donc Et suivi de donc c'est la réclamation du père Mekla. Donc c'est l'intendant en fait, le père Mekla. Donc c'est le second en l'occurrence. Et un homme que vous aviez pas encore vu, qui a genre en vêtements de voyage mais assez classe, et puis vu son allure genre médecin, vous voyez. Voilà. Et puis suivi du chantre d'acier. Donc ça nous fait 5 personnes, si mon compte est bon, qui sont descendues, suivies d'un page. Et donc le père Auguste dit: ah bien sûr, dame, enfin comtesse, vous pourrez loger ici. C'est notre meilleure chambre, elle est très vaste et il y a même des pièces à côté où vos serviteurs, vos servantes pourront loger. Venez, donc bon bah il passe la porte de cette fameuse chambre et tout le monde s'engouffre pour voir la plus, entre guillemets, la plus belle suite du monastère, quoi. Et donc le père Mekla est sur les talons en train de faire des comptes, de dire qu'effectivement on réserve cette chambre aux hôtes les plus distingués. Bon bref, le chantre d'acier rajoute un commentaire. Bon, il scie un peu les pompes de la dame Sylvia. Bon, et donc tout le monde s'engouffre dans cette pièce. Genre à un moment, ils ont eu certains ou un petit regard vers la bibliothèque et puis les 4 gueux qui sont en train de chercher des documents, mais bon, voilà.
Ouais. Et c'est comme si on n'existait pas.
Non, c'est même il y a Cario qui descend, donc le voilà, le Cario qui descend. Genre 30 secondes derrière le groupe que je viens de décrire et qui vous dit que le repas va bientôt être servi dans la pièce, dans la salle à manger, quoi. Et bah voilà que on vous a prévu donc des assiettes à cet effet et que des chambres vous sont réservées au premier étage.
Ouais.
C'est les petites chambres, quoi. Voilà. Et que vous verrez avec l'intendant, mais ça vous coûtera. J'ai pas le prix là. Enfin, le scénario, le propos, il donne pas le détail là, mais je sais pas moi. 2 pièces d'argent par nuit, quoi. Voilà.
Oh, ça c'est cher quand même.
Bah oui, mais c'est la.
Et oui.
Mais c'est la classe, ouais. L'ermitage d'Arlan là, c'est la classe. Même si ça va être les chambres les plus pourries, c'est quand même la classe. Voilà.
Moi je préfère, je me risquerais de lui demander si lui connaît un peu la bibliothèque.
Ah, il te dit que non, mais
S'il connaît quelqu'un qui la connaît bien.
Eh ben il te dit c'est le chantre d'acier.
C'est le seul.
Qui s'occupe de la bibliothèque, mais le seul vraiment qui saurait vous trouver quelque chose dans cette bibliothèque, c'est le frère Solas. C'est un moine qui a plus de 60 printemps. Il est là, donc il était à l'ermitage quand c'était encore l'ermitage. Donc c'est.
C'est peut-être lui qu'il faudrait qu'on demande.
Le père Solas est sûrement en train de prier avec le père Trémise sur la terrasse. Si vous voulez, je peux vous y accompagner.
Oui.
Donc bah vous reprenez l'escalier en colimaçon qui vous amène déjà d'abord à l'étage principal, l'étage de référence, où il y a l'essentiel des places, des pièces. Et puis vous remontez encore un étage. Ça c'est l'étage de notamment où il y a toutes les chambres pour les des résidents permanents, donc la chambre du père Auguste le supérieur, du père Mécla l'intendant. Cario vous indique les propriétaires des chambres quand ils passent devant, quoi. Après, il vous indique une travée, un couloir qui dessert d'autres chambres, et donc il vous indique vous pourrez dormir dans ces cellules. Non, c'est des cellules genre des chambres, mais il y a juste un lit, une table, enfin c'est très spartiate. Vous pourrez dormir dans ces cellules. Et il continue la traversée du second étage pour arriver à l'ouverture sur une terrasse, donc du coup sur l'extérieur. Et donc la terrasse, c'est un endroit donc on dit qui a été rendu tout plat par le travail de l'homme. Donc sur les côtés, il y a des zones jardinées avec des plantes médicinales ou des plantes aromatiques ou des plantes décoratives pour certaines aussi. Et puis il y a un pigeonnier, donc en bois, hein. Et un pigeonnier en bois. Et il y a deux hommes qui sont à genoux en position de prière vers l'horizon, le grand air. Donc le père Solas, qui est genre la soixantaine, chauve, et le père Trémise. Bon, vous le découvrirez après, c'est le colombophile, c'est-à-dire celui qui s'occupe du pigeonnier, des pigeons. Donc eux deux, ils sont vraiment en robe de bure, usés, rapiécés, troués, vraiment à la dure, quoi. Hein, ils font pas les jolis cœurs. Alors Cario vous laisse seul dans le pigeonnier où Solas prie avec le père Trémise. Avant de partir,
est-ce qu'on ose les déranger d'abord?
Cario vous explique qu'il doit ramener des médicaments pour l'un de ses maîtres souffrants. Si vous avez besoin de lui, il vous suffira de l'appeler, voilà. Et puis il s'en va. Donc ils sont en prière. Grosso modo. Vous reconnaissez quand même un psaume à la gloire de Pélor, dieu du soleil, qui fait briller son astre sur les hommes et qui donne l'énergie aux champs de pousser. Voilà. Arrivé à la fin du psaume, évidemment ils pourraient enchaîner. Hein. Ils en connaissent sûrement tout un rayon. Ils sont c'est surtout Solas qui prie en donnant de la voix. Trémise, apparemment, il est plutôt genre silencieux, quoi. Mais Solas s'arrête. Il pourrait enchaîner, c'est sûr, mais il s'arrête et...
Il nous a vus.
Mais il se retourne, il a senti votre présence, il a entendu vos pas, bon, bref. Donc il s'arrête et il se tourne vers vous. Il est très chauve, genre... aussi pas gras du tout, contrairement au supérieur, et plutôt même squelettique. Il lui manque quelques dents, puis il sourit avec un sourire très énergique, très vivant. Il dit vous êtes des pèlerins?
Pas exactement, non. On cherche quelque chose et on pense que vous pouvez nous aider.
Ah bon? Donc il se lève et puis il pose la main sur l'épaule du père Trémise, qui fait un petit signe de tête et puis apparemment qui reste le regard vers l'horizon, donc sûrement qu'il continue à prier. Il fait quelques pas vers vous. Donc toute évidence, c'est un homme bon. Il vous salue bien bas et ce serait une bénédiction pour moi que de vous aider à trouver cette carte. De quoi s'agit-il? Pourquoi en avez-vous besoin?
Faut qu'on lui raconte toute la situation. Donc il n'est pas sans savoir que l'hiver gagne du terrain et puis que on est envoyé par le le comte va lui montrer d'ailleurs s'il le veut. Et puis voilà.
Donc il a vraiment l'œil vif, intéressé par ce que vous dites. Il vous regarde, il vous écoute, c'est clair. Il vous pose quelques questions. Bien sûr. On va écouter. Donc bien sûr, je vais chercher ça immédiatement. Il y a urgence. Effectivement, nous avions quelques informations venant d'en bas. Puis on voit bien au loin cette neige anormale pour la saison. Bien sûr, c'est urgent. Je vais immédiatement aller fouiller dans la bibliothèque. Je suis sûr que je pourrais vous apporter la carte demain matin ou peut-être même cette nuit. Je vais immédiatement m'y mettre. Voilà.
Bah merci beaucoup.
Donc, et puis il s'en va.
Puis peut-être s'il veut l'apporter le lendemain matin, peut-être lundi qu'il veut son nouveau chambre. Enfin, ben, bref, juste en passant.
Donc, il y va.
J'ai dit merci, quoi. Oui.
Et donc vous êtes seuls tous les quatre sur la terrasse avec le père Trémis qui prie dans le, enfin à côté du pigeonnier. Bon, le vent souffle, voilà. Cario revient, réapparaît, et il pénètre dans le pigeonnier et vient soutenir le père Trémise, qui commence à trembler, à baver, et semble soudain avoir mal, bien mal en point, voilà. Le garçon est rassurant, donc, j'ai pris ses remèdes, il vous parle à vous. J'ai pris ses remèdes et traitements avec moi, je vais m'occuper de lui. En revanche, vous êtes attendu pour le repas. Tous les visiteurs et résidents le prennent en commun, c'est la tradition. J'ai aussi prévenu que cela serait absent à cause de recherches à la bibliothèque. Je viendrai vous prévenir s'il trouve quelque chose.
D'accord, merci. Merci à lui aussi, et puis bon, on va y aller.
Ok. Donc, vous avez un pas plus rapide que Cario qui soutient le père Trémise. Donc, c'est bon, vous retrouvez la porte, là vous rentrez dans le bâtiment, vous passez les chambres, vous arrivez à l'escalier en colimaçon, tac, et vous descendez à l'étage principal. Et donc c'est dans des pièces que vous n'avez pas encore visitées. Il y a une salle commune, quoi, hein, qui est presque aussi grande que la salle de prière et de cérémonie. Sauf que la salle commune, elle n'est pas avec des bancs et puis un autel, mais avec deux grandes tables entourées de bancs. Bancs et chaises pour certains. Il y a la porte principale de la salle commune. Et il y a deux petites portes qui permettent de communiquer avec les cuisines. Donc vous voyez deux pages qui font des va-et-vient avec des...
Samuel, t'es toujours là parce que ça fait un moment que tu dis plus rien.
Non, mais
avec de la bouffe, quoi. Puis il y a une cheminée, voilà. Peu importe. Toujours est-il qu'il y a deux tables et donc à la table la plus proche des tapisseries, parce qu'au mur il y a aussi des tapisseries avec des scènes religieuses, etc. Donc surtout le mur du fond, donc il y a une table qui est la plus belle table où il y a effectivement le père Auguste, le supérieur, un peu gras et toujours inquiet, le père Mécla, l'intendant avec l'œil un petit peu méchant, le chantre d'acier. Le beau chantre d'acier, bibliothécaire, et puis la dame Sylvia avec l'homme qui l'accompagne. Et puis, sinon, à l'autre table, donc vous allez vous y asseoir, il y a le père André qui a l'air un petit peu fou. Il a un sourire un peu extatique comme ça. Et puis, voilà, je vais y arriver. Des visiteurs permanents, c'est sœur Baudrich et Et c'est tout finalement. Sœur Baudric, Baudric on va dire, pour ça fait plus classe je trouve. Sœur Baudric, donc en fait c'est un, il est vêtu comme un chevalier. Bon, sauf que là évidemment il a laissé dans sa chambre son bouclier, son casque, voilà, et puis il a laissé quand même le gros de son équipement dans sa chambre. Mais bon, vous voyez qu'il est il a l'allure d'un soldat, d'un guerrier de carrière, de métier. Bon, il a beaucoup de cheveux blancs, il est grisonnant, un peu voûté. Donc, vous voyez qu'il a beaucoup bourlingué. Il a différents symboles religieux sur lui, voilà. Puis sinon, bah comme je disais, la cotte de maille standard, on va dire. Et puis voilà. Et donc il vous parle, donc vous êtes donc il vous interroge. Il n'y a pas une chapelle dans l'histoire. Oui, il était à la chapelle, c'est pour ça qu'il vous avait pas encore vu. Et tout de suite, il vous pose des questions. Alors, qu'est-ce que vous faites là?
On n'est pas forcément obligé de lui dire en vrai, donc on peut lui dire.
On n'est pas obligé de tout lui dire non plus, hein.
Qu'on est venu, pas en pèlerinage, mais pour faire une pause.
Qu'on est venu pour chercher quelque chose de bien précis, mais voilà. On n'est pas obligé de tout lui raconter non plus.
Ok, là,
on est venu pour des affaires du comte, voilà.
Ah, le comte, bien sûr. Bref, il vous donne le bon nom du comte avec le lieu exact, donc de la ville où il habite. Bien sûr, je l'ai bien connu lorsque je fréquentais la cour. Figurez-vous que je suis ici en pèlerinage, en pénitence, car je suis un... Je suis un noble chevalier et mon bras assure la défense des opprimés, des veuves et des orphelins, et je suis toujours accompagné par les dieux, par Pelor. J'avais en garde les biens de l'église, donc d'un temple, bref. Grosso modo, il était affilié à un temple où il faisait office de garde du temple, quoi, en fait. Mm-hmm. En décodé, c'est ça. Sauf que, bon, effectivement, il est sûrement, c'est sûrement du garde de haut niveau, quand même. Bref. Mais j'ai failli à ma mission et le temple a été dévalisé.
C'était quoi comme temple? C'était où? C'est quoi?
Oui, alors il te donne un nom de dieu et puis un nom de ville. Bref.
Ça a rien à voir avec
ouais, ça a rien à voir. Mais bon, bref, et il te dit donc je suis venu ici en pénitence. Je suis sûr que lorsque les dieux auront pardonné ma faute, je recevrai un signe et je pourrai retourner
Peut-être qu'il peut nous aider, en fait. Qu'est-ce que t'en penses, Samuel?
À nous aider, venir dans notre groupe, carrément?
Non, je pensais pas à ça, je pensais d'abord à lui poser des questions, vu qu'il parle de temps, peut-être qu'il connaît celui qu'on cherche.
Pourquoi pas, mais je suis pas sûr qu'il soit super... Et on peut rien à lui en parler, je pense.
On peut rien lui demander, hein.
On peut essayer.
Donc, ouais. Effectivement, vous parlez de religion avec lui, donc vous sentez qu'il est très pieux, très à fond, quoi. Hein, et il vous donne du tac au tac, des répliques sorties de prières, des choses bien mal acquises, ne profitent jamais, des choses comme ça, quoi. Et par contre, quand vous grattez un peu au niveau théologie, en fait, vous sentez qu'il est ici croit, quoi. Il est prêt à vous donner des leçons, mais en fait, il assure pas tant que ça, en fait. Finalement.
Donc en fait, il a aucune information
non,
utile.
Il a pas d'information utile en décodé. Alors, et puis donc vous remarquez qu'au niveau des plats qui vous sont servis. L'air de rien, les plats de la table d'à côté sont un chouïa, ont l'air d'être un peu mieux garnis que les vôtres. Et d'ailleurs là, donc vous avez droit à des chaises très standard quoi, très standard quoi, très simple. Allez, mais vous remarquez que la dame Sylvia a eu droit à une belle limite un petit fauteuil quoi pour s'asseoir. Pareil pour la personne qui l'accompagne. Et l'intendant et puis le supérieur ont aussi des belles chaises, voilà quoi, qui marquent bien la différence entre eux et les
autres. Ouais.
Donc aux échanges, vous comprenez que l'homme qui accompagne Dame Sylvia, c'est son médecin, et il y a deux autres servantes qui doivent venir, mais sont tombées malades malgré les bons soins du médecin, qui leur avait pourtant prescrit un remède juste avant, parce qu'il avait effectivement senti qu'elles s'étaient pâles. Donc malgré le remède, elles sont tombées malades il y a quelques jours. Et donc elles ont dû rester alitées à l'auberge, mais elles devraient arriver d'ici 2-3 jours, 4 maximum. C'est ce que dit le médecin, il est sûr de lui, son remède va faire effet.
Puis elle est venue pourquoi en fait?
Donc elle, c'est parce que elle veut se rapprocher des dieux et parfaire ses connaissances. Donc justement, le père Auguste lui indique les différents cultes qu'il y aura au cours de la journée, donc la prière du matin, la prière du midi, la prière du soir, et puis la lecture, et qu'il est prêt à lui faire la lecture des différents livres de culte, les livres standards, on sait pas des livres très recherchés, mais bon, les livres de base et les commentaires pour lui expliquer les différents dieux, leurs différentes guerres qu'ils ont fait les uns contre les autres, leurs alliances, puis aussi leur pouvoir, leur domaine d'action, les anges et les archanges qui sont à leur service quand ils sont déjà intervenus plutôt. Dans quelle légende ils sont intervenus? Quels événements ils sont intervenus? Et puis pareil, le père Mekla essaie de glisser des tas de choses. Enfin, il essaie de glisser dans la conversation. Pareil pour le chantre, beau chantre d'acier. Il essaye de glisser des trucs. Le chantre d'acier promet de fournir à Dame Sylvia les plus beaux ouvrages de la bibliothèque, etc. Bon, et puis qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Et en fait là, il y a un moment, il y a plusieurs moments dans le repas où intervient à votre table. J'ai dit qu'à votre table il y avait qui? Il y avait sœur Baudric, et puis il y avait un moine, il y avait le père André. Et le père André, il sort une réplique, il mange, et puis d'un seul coup il réplique un truc, il balance, et c'est genre, en fait, il balance une vérité, quoi. Que les repas servis à la table de Dame Sylvia sont étrangement... mieux garni que les plats d'ici, est-ce bien pieux, tu vois, des choses comme ça. Et donc aussitôt le père Auguste le sœur Baudric, le chevalier, vous dit à l'oreille, le père André est un peu fou, il dit comme ça quelques vérités très très cinglantes, mais on dit qu'il est fou suite à la foudre qui lui serait tombée dessus, ou bien d'autres disent que c'est à cause d'une chute après un coup de poing ou un, mais d'autres m'ont dit que c'est qu'ils pensaient que c'était un livre qui lui était tombé dessus. Mais moi, je pense que ce sont les anges qui lui soufflent de dire ce qu'il dit. Après tout, ne dit-on pas que seule la vérité apporte la lumière ? Ben voilà. Donc, bref, vous êtes, bon. Vous êtes assis à côté du père André, le moine véridique, c'est-à-dire le moine qui balance des vérités comme ça, un peu fou là.
Ouais, au risque de se faire taper par.
Ouais, voilà. Donc, ouais, vous avez remarqué effectivement lorsqu'il se donne
de se faire remontrer assez
sèchement. Ouais, ouais, donc effectivement quand. Mais bon, il est apparemment on le considère comme fou, donc tu vois, il y a une certaine sorte de tolérance, quoi. Mais effectivement, quand il balance ses remarques, vous avez pu noter que les différents, enfin les, notamment le père Auguste et le père Auguste, le supérieur et l'intendant, donc je vais pas y arriver. Le père Méclat ont vraiment un œil assassin sur lui, quoi. Voilà.
Ouais, du genre, faut surtout pas que la comtesse entende ça.
Oui, enfin bon.
Mais c'est
oui,
trop
mais
tard.
Bon, la comtesse, bon, apparemment, elle a été avertie. Elle fait un peu comme si de rien n'était. Bon. Voilà.
Bon.
Bref. Bon. Donc. Donc. Alors. Donc le. Les deux pages font les allers-retours entre la cuisine et le salon, enfin la salle commune où vous mangez. Vous mangez, sauf si vous voulez faire quelque chose de particulier.
Non.
Donc.
T'as quelque chose toi, Samuel, proposé ?
Non, pas du tout.
Alors, juste pour dire Les pages ont aussi parfois pris des plateaux, enfin même en fait même pas à deux reprises les pages sont montées avec des plateaux dans les étages, c'est pour apporter le repas au père Trémise, le colombophile qui est alité parce qu'il est malade en fait. Et vous avez appris qu'en fait il peut pas parler en ce moment depuis plusieurs jours. Il peut pas parler, et puis par moment, il a vraiment des crises de faiblesse, de voilà. Et puis le père Solas qui est en train de chercher votre carte dans la bibliothèque. Le concours d'histoire étant terminé, excusez-moi, tout le monde se disperse, et le père Auguste, le supérieur, revient vers vous et vous indiquez les cellules dans lesquelles vous pourrez dormir. Alors personne ne quitte le monastère la nuit, hein, puis parce que la descente est beaucoup trop dangereuse dans le noir. C'est un coup à se, même avec la corde, c'est un truc à se rompre le cou. Donc il est moins sec et moins distant que quand il vous a accueilli. Bon, faut dire que là, il a pu bien parler le plus possible avec Dame Sylvia, puis il a un peu bu aussi.
Il est aussi plus déstressé parce qu'il avait l'air stressé pour avant qu'elle arrive.
Pendant le repas, il a pas mal picolé, donc ça va mieux.
Bon, on n'a pas de nouvelles des recherches qui sont faites pour nous.
Non, mais bon, le sœur Baudric vient vers vous et il s'enquiert de vos différents faits d'armes parce que vous lui en avez parlé un moment dans le repas et puis il vous avait un peu questionné, mais il revient là-dessus, ça l'intéresse. Il boit vos paroles. Voilà. Enfin, donc finalement, donc Cario vient à votre rencontre alors que vous êtes quasiment les derniers dans la pièce et donc il vient vous transmettre un message de Dame Elena qui est fort désolée de n'avoir pu les croiser au dîner en raison d'une indisposition. Alors que Cario vous quitte, un cri retentit en provenance du niveau inférieur. Ouais, ah. Faites-vous.
Ben... Non, on va aller dans sa direction.
Ouais, on descend.
Ok. Donc, effectivement, donc vous...
Soyez le trouver, soyez un problème.
Vous sortez de la salle commune, vous...
Ça avait l'air d'être d'un cri plutôt réjoui ou d'un cri genre quelqu'un qui se fait attaquer ou qui
pas
meurt.
Pas
qui
se fait attaquer, mais ça semblait quand même une catastrophe. Donc vous sortez de la salle commune, vous prenez le couloir, colimaçon, donc le niveau inférieur, donc là où il y a notamment la bibliothèque, l'atelier de copiste et puis la chambre super classe qu'utilise sœur. Excusez-moi, Dame Sylvia. Donc, ouais. Donc là, il y a d'acier, le chantre d'acier, le beau chantre d'acier, qui est pétrifié, car il vient de découvrir le corps inerte du Père Solas. Père Solas, donc le mec sympa,
qui cherchait notre cœur,
la soixantaine, chauve. Et, donc là, il est étendu par terre, toujours, il y a du sang. Pas mal de sang autour de lui. De toute évidence, bon, en tant que, entre les guerriers, puis ceux qui ont roulé leur boss, vous voyez tout de suite qu'il a été poignardé. Voilà. Puis qu'il est mort des suites de sa blessure, quoi.
Pendant qu'il cherchait. Oh là là. Ouh là 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 là, il y a quoi autour de lui?
Bah il y a rien d'anormal, voilà, il est donc dans le début de l'étage inférieur, donc juste avant le
l'arme qu'il a tué, ou il y a quelque chose, ou je sais pas, il y a quelque chose sur lui.
Alors il y a ses vêtements, comme quand vous l'avez croisé, vous remarquez donc il tient dans sa main droite un parchemin enroulé, et donc vous n'êtes pas les seuls à descendre, évidemment tout le petit monde de la du monastère descend, donc le père Auguste le supérieur, le père Mécla l'intendant, le père André le moine véridique, évidemment le colombophile est toujours alité. Solas, c'est celui qui est mort. Le sœur Baudric arrive.
Mmh.
Donc pour l'occasion, il était rentré, il était retourné dans sa chambre. Donc du coup, il est venu en trombe.
Ouais,
il est venu en trombe avec son épée et son bouclier, puisqu'il avait entendu un cri, donc réflexe. Hein. Voilà. Et il y a Dame Sylvia et son médecin qui arrivent peu après. Et puis même les deux pages restent sur les marges de l'escalier en colimaçon, mais sont venus quand même. Voilà.
C'est quoi le parchemin qu'il a dans la main?
Ouais, on peut regarder ça déjà.
Donc c'est une carte. Ah oui, puis il y avait autre chose de très important. C'est une carte. Donc là, c'est votre carte. Et sinon,
bon, okay, on la prend
donc,
alors.
Aussitôt, sœur Baudriche vous dit, mais que faites-vous?
Nous lui avions demandé tout à l'heure de nous aider à chercher le renseignement dont on vous a parlé. L'objet dont on vous a parlé.
Ah, et c'est ça?
Oui.
Il semblerait, en tout cas.
Il semblerait que ce soit ça.
Par contre, on veut quand même... On va regarder qui a bien pu faire...
Donc là, il y a le chevalier, sœur Baudric, a un regard d'inquisiteur sur vous et sur tout le monde, un regard inspiré, inspecteur, je sais pas quoi, inspecteur de police quoi, et vous dit donnez-moi ça que je vérifie.
Non, on peut le. Par contre, est-ce que quelqu'un a entendu quelque chose ou a vu quelque chose avant qu'il soit poignardé?
Alors tout le monde je dis non, mais alors attends, non parce que c'est un peu chaud mon histoire. Alors juste avant que, non mais laisse-moi deux secondes. Donc il insiste le sœur Baudrige. Si, montrez-moi ça que je...
Vous voulez faire quoi avec ?
Je vais vérifier vos dires. Après tout, comme vous le dites vous-même, il y a un criminel parmi nous. Et qui me dit que ce n'est pas vous ?
Nous étions toute la soirée...
Vous avez bien vu qu'on était au concours d'histoire, donc...
Oui, mais après. Donc je sais que nous avons discuté ensemble... Et puis après, je me suis rentré dans ma chambre et il y a eu plusieurs longues minutes avant la découverte du corps de Monsieur Dupère Solas. Vous auriez très bien pu être les assassins. Ou l'un d'entre vous.
Ben.
Et quand aurions...
Quand est-ce qu'on aurait pu le faire, puisque on discutait avec lui juste avant.
Mais je crois qu'il y a des mages parmi vous. Avec la magie, tout est possible.
Et voyons, nous discutions avec vous, vous avez bien vu que nous étions tous les quatre discutant avec vous au moment où on a entendu le cri.
Non, mais là, je te contredis. Vous avez discuté avec lui, puis après il est parti, après on a eu un flottement, okay. Et puis après il y a eu Cario qui est venu vous donner un message de Dame Elena, et puis après il y a eu le cri. Donc du coup, il y a eu effectivement quelques minutes, je sais pas moi, 5 minutes entre le départ de sœur Baudric dans sa chambre et puis le cri. Donc voilà, effectivement, bon, alors vous pouvez très bien dire que c'est pas suffisant, etc., machin bidule, mais bon, bref, toujours est-il qu'il insiste lourdement, montrez-nous cette carte.
On peut lui montrer qu'on a été envoyé par le comte aussi, puis lui dire, écoutez, on a été envoyé par le comte, on veut pas, on n'est pas là
bon,
pour...
Alors, bon, ça, normalement, vous l'avez déjà dû lui dire.
Lui, peut-être pas.
Bon, vous redites ça, vous ressortez le document.
C'est une
et puis, voilà, nous, on n'est pas là. Vous faites tous les deux un test de charisme. Donc, vous lancez votre D20 plus le bonus de charisme. Et puis, comme vous avez on va dire un bonus de circonstance avec le document officiel tamponné du compte, ça fera encore plus 5 pour le document du compte.
Tu me lances, Quentin ?
Ok. Alors, moi je suis le premier, deuxième. Alors plus 5 pour chacun ou... Alors, pour moi, ça fait 16, puis pour toi, sur le dé, il y a 7.
Ça fait pas beaucoup. Donc ça fait 15.
En prenant en compte tous les deux mon bonus de 5 pour la circonstance.
Oui.
Donc 15 oui. Et 16. Ok, bon, bah c'est bon, vous le convainquez, et vous convainquez l'assemblée que c'est bien la carte que vous étiez venu chercher et que le personnage a cherché pour vous. Donc ça, déjà...
Oui. Par contre, il reste quand même un mystère à déterminer, c'est qui l'a tué.
C'est vous, d'ailleurs, hein, attention. Alors...
C'est sûrement pas nous.
Bon. Non, parce que du coup, j'ai oublié une information, c'est pour ça que je voulais vous le dire, que j'étais un peu arrêté dans tes questionnements, là, c'est qu'il y a un autre truc. Là.
Ouais.
Devant lui, donc, apparemment écrit avec son propre sang, donc au début, vous n'avez pas fait attention, mais ça semble vraiment être de l'écriture. Donc, vous regardez un peu plus près, et même si c'est pas bien écrit, avec son propre sang, il aurait écrit de sa main droite deux inscriptions sibyllines, sûrement des références à des ouvrages de la bibliothèque. Donc, le septième sens... Et le miroir de la sorcière. Voilà.
Le miroir de la sorcière. Ouf. Bon, messieurs les magiciens. Ouais. Ça vous dit rien ?
C'est surtout Mickaël, moi...
bon, bah...
Il a écrit ça avant de mourir.
Donc
son assassin l'a écrit.
Donc le médecin
le 7 c'était quoi sens. Le 7e
le médecin de dame Sylvia vous indique que le 7e sens est un ouvrage philosophique mettant en garde les lecteurs contre les évidences des apparences, contre l'évidence des apparences. Et puis on va dire que la magicienne qui vous accompagne, elle connaît notamment l'ouvrage qui s'appelle Le Miroir de la Sorcière, C'est un conte allégorique où la sorcière change d'apparence pour commettre ses méfaits. Et donc et prend notamment la forme d'un corbeau pour fuir les lieux de ses actes odieux. Voilà.
Mm-hmm.
Alors que vous êtes en pleine réflexion autour de ça, le chevalier Baudrige prend les choses en main. Et il dit... il s'agit d'un meurtre, d'un homme de foi, en deux mains de plus, c'est donc très grave. Bon, bref, le chevalier, pour lui, c'est encore plus grave d'avoir tué un homme de foi. Bref. Lui, c'est ce qu'il pense. Donc, bref, ce qui est pire encore. La porte de l'ermitage sera donc close jusqu'à ce que le coupable ait été identifié. J'en m'en chargerai moi-même. Et je vous prierai de retourner tous dans vos chambres. À part le père Auguste qui va m'aider à transporter le corps du frère Solas dans un endroit plus digne pour attendre sa dernière demeure.
Vous n'avez pas besoin de lui demander s'il a pas besoin d'aide.
Je ne sais pas. Donc il avance. Et bon, si vous avancez avec lui, grosso modo, il va se prendre une chaise dans une des pièces de l'étage principal et il se plante devant la porte à double battant, la grande porte d'entrée de l'ermitage. De toute façon, pour la nuit, des poutres ont été mises en travers de la porte pour bien la fermer hermétiquement, quoi. Donc il se met devant et il redit ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc personne ne sortira tant que le criminel ne sera pas démasqué. Puis sur ce, donc il prend une position voûtée du pont. La position voûtée du penseur. Donc là, c'est le menton dans la main, le front plissé, bon, bref. Donc pas de doute, avec lui en charge, l'enquête va durer des mois. Voilà, donc bon, effectivement, à partir de ce moment-là, bon, j'étais un petit peu directif là, mais il arrive le moment où effectivement vous décidez de la marche à suivre. Est-ce que vous voulez mener l'enquête vous-même? Est-ce que vous voulez l'aider, le chevalier, à mener l'enquête ou autre chose? Voilà. Là, j'ai bien fait en sorte de décrire le mieux possible le lieu, les moyens d'accès, les différents protagonistes, etc. Et ouais. Bon, ça fait un petit peu polar, un peu à Agatha Christie, hein, tout ça.
Pour la prochaine oui. Bon, je suis déjà ma petite idée.
C'est compliqué, hein, toute cette histoire. Il y a beaucoup comme dans les romans d'Agatha Christie, il y a plein de protagonistes.
Faudra sûrement, nous rappeler
voilà,
des
donc,
choses.
Mais la grande question déjà, avant qu'on se sépare ce soir, c'est qu'est-ce que vous faites? Bon, de toute façon,
c'est surtout, est-ce qu'on met notre enquête de notre côté ou est-ce qu'on essaye de l'aider lui directement?
Après, bon, de toute façon, vous êtes parti dans cette idée-là, hein, donc c'est bien comme ça. Mais sinon, je tenais à vous dire que d'autres possibilités sont ouvertes. Votre mission principale, c'était de trouver la carte et puis de vous dépêcher par rapport aux problèmes liés au retour de l'hiver. Mais donc à partir de là...
Ouais, on peut aussi essayer de s'échapper, mais je crois que c'est pas une bonne idée.
Voilà... Bon, bref.
En même temps, c'est... Moi, je dirais pas que c'est une... Parce que c'est quand même la mission principale, donc tous les trucs...
C'est quand même la mission principale, peut-être, mais... disons que... Je peux pas laisser un truc comme ça... Après, ils vont croire que c'est nous. Si on se sauve comme ça, comme des voleurs, ils vont être sûrs que c'est nous.
Ils vont croire que c'est nous et après on aura
poursuivre et on est mal barre.
Mais après on aura sauvé toute la région et voilà. Donc tout le monde le saura et voilà. Alors que si on reste, le froid va s'étendre, on va arriver en retard et
ça dépend combien de temps on reste aussi.
On n'arrivera jamais à rien faire. Bah, c'est parti pour...
Bah, effectivement, si vous laissez l'enquête uniquement faite par le chevalier, bref...
Ben, il faut qu'on lui propose son aide, ou bien alors qu'on mette notre enquête de notre côté, puis ensuite qu'on lui propose son aide pour lui montrer ce qu'est-ce qu'on aura trouvé, mais...
Il faut réussir.
Soit on lui demande de l'aider directement, si on veut résoudre, soit on lui demande de l'aider directement, ou soit on met notre enquête de notre côté, et puis on lui demande si on peut l'aider après, en lui expliquant ce qu'on a déjà trouvé. Il y a les deux possibilités, ou alors il y a la possibilité d'essayer de s'échapper, mais si on essaye de s'échapper, le truc c'est qu'après ils vont nous poursuivre, donc je suis pas sûr que ce soit forcément une bonne idée non plus.
Ou alors il y a la possibilité de l'accuser tout de suite, et voilà.
Ouais, ça c'est possible aussi. Je suis presque sûr de savoir qui c'est. Ah, bah non, alors. Pas presque sûr, mais j'ai déjà mon idée.
D'ailleurs, sœur Elena, c'est qui ?
Alors effectivement, il y a Dame Elena que vous n'avez pas encore croisée, dont Cario vous a parlé. Voilà. Mais c'est tout.
Mais en fait, on sait quoi d'elle ?
Pour l'instant, vous ne savez rien.
Ok.
Parce qu'on nous a rien dit sur elle.
Non. Rien dit.
Faudra essayer de voir la prochaine fois.
Ouais, bon, faudra réfléchir à comment on va s'enfuir. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Essayer de s'enfuir quand même, même qu'il a dit que personne devait quitter. Essayer de sortir de force, je pense pas que ce soit forcément une bonne idée, parce qu'après, je te dis, après, ils auront de bonnes raisons de nous accuser. Et donc, ils vont nous poursuivre et... on sait jamais.
Ok. Bon, donc, j'ai l'impression quand même, grosso modo, que vous avez envie de mener l'enquête, non ? Samuel ?
Ouais, plutôt.
Et toi,
ouais.
Bon, Quentin, c'est la première chose que t'as proposé, donc, de toute façon.
Ouais, moi, je suis plutôt pour...
Bon, donc,
ouais.
Dans ce cas, vous allez mener l'enquête, hein, puis voilà tout. Mais sinon,
Enfin, faudra demander aux autres, mais moi je serais pas complètement opposé à partir, mais faudra demander aux autres.
D'accord.
S'ils sont là.
Bon. D'accord. Ouais. Bon, dans ce cas, je voulais vous faire la...
De toute façon, il est difficile, donc.
Je voulais vous faire la liste de ce qu'avait imaginé l'auteur du scénario pour les différentes options qui vous étaient offertes. Donc l'une d'elles, effectivement, c'est mener l'enquête. Une autre, c'était fuir discrètement, donc ce que dit Quentin, s'échapper. Une autre, effectivement, c'était accuser le premier venu. Bon, Samuel a dit accuser le chevalier. C'était ça. Et
non, moi je accuser de dire hein, c'est lui, ouais. Direct. Ouais.
Bon,
ou c'est
c'était
elle.
Une chose. Bon, après il y a des pour, il y a des contre. Hein,
oui.
Et puis il y avait encore. Il y avait au moins encore deux options imaginées par l'auteur du scénario. Mais bref, bon après je vous... Bon, l'objectif c'est pas de deviner les options qu'avait imaginé l'auteur, puisque de toute façon, le jeu de rôle c'est la liberté, donc bon. Donc voilà, donc c'était juste pour vous dire qu'il y avait ces différentes options d'imaginer. Dans les romans policiers, ils sont pas tous comme ça, mais il y a souvent le phénomène du huis clos, c'est-à-dire qu'ils sont dans une propriété où ils peuvent pas sortir, ou sur une île où ils peuvent pas sortir, ou dans un train où ils peuvent pas sortir, donc forcément on a...
Ouais, Agatha Christie, c'est l'expert
voilà, donc là c'est un peu ça, quoi. Là, on a... Donc c'est pour ça que j'ai voulu essayer de faire de mon mieux, de mettre en scène les lieux, et mettre en scène les différents protagonistes pour arriver à la potentielle enquête façon Agatha Christie. Donc voilà.
Bah t'as aussi beaucoup parlé, là.
Ouais.
Ce soir, c'est toi qui t'as parlé.
Ouais.
80.
Bah, pas au début quand c'était le combat, mais une fois que vous êtes... une fois que le combat était passé, que vous êtes commencé à vous rapprocher de l'ermitage...
La description de la ville, de trucs, des machins...
Ouais, j'ai beaucoup parlé. Ouais, mais c'était nécessaire pour mettre en place le truc, quoi. Voilà, bon, et bah, dans ce cas, on s'arrête à ce moment-là. Donc là, il y a eu une longue présentation du décor et des personnages, qui a fait que les joueurs ont eu peu d'interactions, s'ils en ont eu, c'est assez minime, en fait, ils étaient vraiment dans un couloir, quoi, je dirais quasiment, pour rencontrer tout ce beau monde et voir tout ça, et maintenant qu'il y a eu l'événement du crime, et qu'ils vont... Vont vraiment interagir maintenant à leur guise et maintenant ils vont vraiment dire bah je fais ci, enfin on fait ça ou je fais ci. Le meneur de jeu va interagir en leur disant bah ok, bah il se passe ça ou on te dit ça ou bien fais-moi un test de ci, bah puisque tu as réussi il se passe ça, puisque tu as raté il se passe ça. Donc là les échanges vont être beaucoup plus intenses entre les joueurs et les entre joueurs et entre le meneur de jeu et les joueurs et voilà. Je voulais rajouter que normalement, donc le meneur de jeu, enfin quand tout se passe autour d'une vraie table, le meneur de jeu a tout son matériel derrière un paravent en carton, ce qui fait que les joueurs ne voient pas ses affaires, ne voient pas le scénario, ne voient pas ses prises de notes, ne voient pas ses dés non plus, et ses lancers de dés. Et bon là, dans le cadre du jeu de rôle par chat vocal, personnellement, j'avais mis en place de faire les lancers de dés avec le même système que les autres joueurs, ce qui faisait que tout le monde voyait mes résultats de dés en tant que meneur de jeu, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Bon là, il faudrait que vous jouiez une paire de séances pour vous en rendre bien compte, mais bon, je vous le dis comme ça. Donc normalement, mais les joueurs ne voient pas les résultats du meneur de jeu, et bon, moi, ce que je pourrais plus très bien faire, c'est prendre mes vrais dés, puis les lancer devant mon ordinateur chez moi, sur ma table en bois, et puis voilà, ça aurait été pareil. Mais bon, voilà, c'était un choix de ma part, et puis bon, du coup, ça amuse mes joueurs de voir les résultats de dés en direct. Voilà. Enfin, je rajouterais que le scénario que j'ai fait jouer là, enfin, la campagne entière du Seigneur de l'Hiver, c'est une campagne qui est donc déjà écrite par quelqu'un d'autre, qui est publiée, donc du coup, moi, je dois préparer le scénario, le lire, m'en imprégner, et ce qui fait que lorsque je le fais jouer, il y a des passages qui sont lus, on le sent, hein, de toute façon, et puis il y a d'autres moments où je cherche les informations dans ce qui est écrit, et ce qui n'est pas forcément formidable non plus. Bon, mes joueurs reviennent jouer, donc ça doit pas être si mauvais que ça, de toute façon. Sinon, avant... quand j'improvisais, et je vais sûrement recommencer bientôt à improviser moi-même mes scénarios, donc je les crée moi-même, soit je les prépare à l'avance, et donc ils sont plus ou moins préparés à l'avance, soit je les improvise carrément au fur et à mesure, et donc dans ce cas-là, souvent, ça va, c'est beaucoup plus fluide. C'est dans mes idées, mes noms de lieux, mes noms de personnages, et donc du coup, c'est vrai que c'est beaucoup plus fluide en ce qui me concerne. J'ai tenu quand même à faire un certain nombre de scénarios tout faits, parce que c'est aussi très enrichissant en tant que meneur de jeu de voir comment les autres auteurs ont pu mettre en scène certains passages, ont pu avoir l'idée de faire des tests de lancer des dés à tel ou tel moment et pas à d'autres. Je découvre aussi les enquêtes, les énigmes que sinon de moi-même j'aurais pas fait. Bon voilà, le reportage long est terminé, enfin ce reportage complémentaire est terminé. J'espère que l'écoute du reportage court et du reportage long vous aura donné matière à bien comprendre ce que c'est le jeu de rôle. Et puis voilà, et sachez donc que c'est un jeu très facilement accessible puisqu'il repose essentiellement sur la parole, sur la discussion et sur l'imagination. Voilà, et bien écoutez, je vous dis au revoir et peut-être autour d'une table de jeu à l'occasion.